Alors, bienvenue à tous. Donc, voici une nouvelle séance de questions et de réponses. J'ai reçu 11 questions par écrit. Et donc, je vais peut-être répondre à une ou deux de ces questions que j'ai reçues par écrit pendant que les personnes arrivent. Et puis, si vous avez une question en direct, je prendrai ces questions-là en priorité. Et s'il ne reste plus de temps pour répondre aux questions que j'ai reçues par écrit, alors j'y répondrai dans une vidéo que je vous enverrai mercredi. Donc, la première des questions que j'ai reçues par écrit, je pense que les questions me sont transmises dans l'ordre chronologique. La première question, c'est, elle vient de Orla Hogan. Et la question est, j'ai eu la grande chance de pouvoir prendre refuge avec sa sainteté, le Karmapa, et aussi avec Thai Situpa. Sa sainteté Karmapa est mon lama racine. Depuis 2011, j'ai l'habitude de pratiquer dans une lignée ésotérique bouddhiste chinoise. Et c'était avant que je prenne refuge dans la lignée Kagyu, en 2018. Je continue de faire la pratique de la lignée chinoise, et en parallèle, je fais les prosternations des Nyendro dans la lignée Kagyu. Est-ce qu'il est bon de faire les pratiques des deux lignées? Je me sens parfois confuse et coupable, mais le Karmapa est mon cœur. Donc la réponse de Rinpoche. Je pense que si l'enseignement est correct, si c'est un enseignement qui est correct et si c'est une pratique qui est correcte, alors je pense que vous pouvez avoir différentes pratiques, tant que c'est des pratiques qui sont bonnes et correctes. Je pense que ce n'est pas un problème. Donc là, le son a été un peu coupé pendant le direct. Est-ce que c'est revenu maintenant, demande Rinpoche. Oui, c'est revenu. Et fondamentalement, je pense que la question n'est pas de savoir si on pratique une chose ou si on en pratique deux. La question est plutôt de savoir si la pratique que l'on a, elle est bonne et authentique. Et puisque je ne connais pas cette pratique de la lignée chinoise, je ne suis pas en position, je ne suis pas en mesure de vous dire si c'est une pratique correcte ou pas. Ça, c'est quelque chose que vous devez déterminer par vous-même. Est-ce que nous avons déjà des personnes qui veulent poser des questions? Demande Rinpoche. Je n'ai pas encore de main levée, répond Andy. Donc, Rinpoche dit, très bien, donc je vais prendre la seconde question, qui est de Rosa Calico. Et cette question, c'est la suivante. Si une personne réalise la différence entre le samsara et le nirvana, si elle réalise que cette différence n'est pas plus que celle de l'ordre du rêve, parler des personnes sur Terre et de la vastitude de l'univers, Moi, pour ma part, je n'arrive à concevoir que la Terre pour l'instant. Est-ce que l'éveil peut être vu comme une sorte de renoncement? Et Rinpoche répond. En fait, la différence entre le samsara et le nirvana n'est pas de l'ordre du rêve. La différence entre le samsara et le nirvana, c'est de savoir, elle se situe au niveau de savoir si vous voyez les choses clairement ou non, si vous avez la sagesse ou non. Si vous voyez les choses telles qu'elles sont réellement ou si vous êtes sous l'effet de la méprise. C'est ça la différence entre le samsara et le nirvana. Si vous pouvez comprendre ou percevoir ou voir ou faire l'expérience de vous-même telle que vous êtes et du reste des choses telles qu'elles sont, alors c'est ce qu'on appelle l'éveil. Si vous voyez les choses non pas telles qu'elles sont en réalité, mais d'une façon incorrecte, d'une façon mal comprise, avec des illusions, avec des méprises, alors vous êtes dans le samsara. Je ne comprends pas, dit Rinpoche, ce que vous entendez quand vous parlez de la Terre et de la vastitude de l'univers. Pour ce qui est de la vastitude de l'univers, je pense que vous pouvez vous en rendre compte par vous-même. Tout le monde peut s'en rendre compte par lui-même. Tout le monde peut voir par lui-même que il y a d'innombrables étoiles, il y a d'innombrables systèmes solaires. Et parfois, nous pensons ou peut-être que les gens ne savent pas vraiment, vraiment, ils se demandent si il y a de la vie sur d'autres planètes ou dans d'autres systèmes solaires. Mais personne n'a pu se rendre dans ces autres systèmes solaires pour voir ce qu'il en était réellement, mais puisque il peut y avoir de la vie sur Terre, des êtres sensibles sur la Terre. Je pense, dit Rinpoche, que ça serait trop simple de supposer qu'il n'y aurait pas d'êtres vivants sur d'autres planètes ou dans d'autres systèmes solaires. Donc, tout le monde peut voir que les systèmes solaires sont illimités. Concernant le fait que l'éveil serait une sorte de renoncement, je ne sais pas ce que vous entendez par renoncement, mais je pense que j'ai déjà parlé un peu de l'éveil. Je pense que parfois il est plus facile de dire que quand vos qualités positives naturelles, comme la sagesse, la compassion, et toutes les qualités positives qui sont présentes en vous de façon innée, si vous pouvez faire se manifester ces qualités, si vous parvenez à les rendre manifestes complètement, à les faire éclore de manière complète, toutes ces qualités innées, et ben c'est cet état d'explosion totale de vos qualités innées que l'on appelle l'éveil. Et le renoncement, je pense que je l'ai déjà dit auparavant, mais je voudrais le redire encore une fois parce que beaucoup de gens ont des malentendus par rapport au renoncement. Le renoncement, fondamentalement, c'est quand vous vous rendez compte que notre façon de réagir, de ressentir, d'éprouver les choses, notre façon de voir les choses, dans l'état d'esprit samsarique, c'est-à-dire que encore et encore, nous créons des problèmes, des difficultés, des souffrances pour nous-mêmes et pour les autres. Quand vous arrivez à voir cela clairement, alors vous prenez une décision et vous avez une très claire aspiration en vous-même qui dit « je voudrais transformer cela, je voudrais changer cela, je ne peux plus continuer à souffrir de la sorte, donc je dois faire quelque chose à ce sujet. » Donc si quelqu'un a cette clarté, si quelqu'un a ce type d'aspiration, alors c'est cela que l'on appelle le renoncement. Et c'est pourquoi j'ai dit précédemment dans ces séances que le renoncement, en fait, c'est de l'amour envers soi-même, pour soi-même. Dans le sens où on se dit, je ne veux plus continuer à souffrir davantage, je ne vais pas continuer à permettre que je souffre encore. Je dois éliminer cette souffrance en moi-même et je dois faire tout ce qui est en mon possible pour m'entraîner, faire tout ce que je dois faire pour éliminer les causes de cette souffrance. Et pour en être libre. Avoir cette aspiration très clairement et se sentir engagé en ce sens, c'est ça que l'on appelle le renoncement. Je pense que maintenant nous avons des personnes qui sont là pour poser des questions en direct. Est-ce que vous souhaitez poser des questions en direct? Donc nous avons une question de Corinne. Bonjour Corinne, dit Rinpoche. Bonjour Rinpoche, dit Corinne. Bonsoir, ça fait plaisir de vous voir de nouveau. Tachitele, dit Corinne. Très heureux de vous voir également, dit Rinpoche. Corinne dit, j'ai une question concernant la souffrance et le karma négatif. Est-ce que vous pouvez expliquer lorsqu'on est malade, est-ce que nous éliminons et nous purifions du karma négatif? En quoi est-ce que nous purifions et éliminons du karma négatif quand nous sommes malades? Et la deuxième question, est-ce que vous pourriez donner un conseil sur comment être conscient tout le temps de cet état non-duel des choses, même si c'est impossible? Est-ce que ça se situe plus dans la tête ou plutôt dans le cœur? Ou est-ce que c'est plutôt une combinaison des deux qui nous permet d'être, de demeurer dans la conscience? Rinpoche dit, je pense qu'il y a deux questions. D'abord, la question sur comment purifier le karma. purifier le karma, dit Rinpoche. D'abord, il y a quelque chose de très important. Parce que c'est très différent dans le bouddhisme. C'est quelque chose qui est très différent d'autres concepts et d'autres religions. Dans le point de vue bouddhiste, quelle que soit la négativité et la puissance du karma négatif que vous avez accumulé, quelle que soit la puissance des actes négatifs que vous avez accomplis, cela peut être totalement et complètement purifié. Et donc, il est beaucoup plus facile de purifier, si vous le purifiez vraiment, en fait, c'est très facile à purifier, c'est tout le point. Si vous pratiquez vraiment le dharma, en une seule vie, vous pouvez atteindre l'éveil, et ça signifie que vous pouvez purifier tout le karma que vous avez accumulé, quel qu'il soit, depuis des temps sans commencement jusqu'à maintenant. Tout ce karma négatif, vous pouvez le purifier en une seule vie. C'est aussi simple que ça. C'est une bonne nouvelle, dit Corinne. Et Rinpoche renchérit, oui, c'est une très bonne nouvelle. Mais, encore une fois, on ne peut pas non plus se dire « Ah, bah, j'ai qu'à faire tous les actes négatifs que je veux et ensuite il suffira que je donne de l'argent à un lama et ça suffira pour purifier tout ça. » Non, c'est pas, ça ne marche pas comme ça. En fait, la purification, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur même de vous-même, que vous devez faire à l'intérieur même de vous-même. Et la purification principale, elle consiste à sortir des causes de l'illusion. Parce que il n'y a pas l'idée que vous avez fait telle chose, vous avez fait telle autre chose, et donc il y aurait une sorte de registre sur lequel tout ça serait écrit, et vous devriez, pour chaque chose négative que vous avez fait, vous devriez la compenser par une chose bonne. Non, c'est pas comme ça. En fait, c'est que une fois que votre esprit est complètement éveillé, une fois que vous pouvez voir la réalité, que vous avez la sagesse complète, eh ben, vous aurez appris à transformer vos émotions négatives et vous, ça sera ça la purification, vous aurez purifié. Et c'est pourquoi développer la compassion, la sagesse, c'est pourquoi aussi c'est un peu connecté avec votre, un peu lié à votre seconde question, c'est que si vous voyez vraiment la vraie nature de vous-même et de tous les phénomènes, directement, alors vous avez la sagesse et alors votre karma s'en trouve automatiquement purifié. Plus vous expérimentez cela clairement, plus votre karma est purifié. Mais nous commençons, pour commencer, nous essayons de nous abstenir de commettre des actes négatifs. Nous essayons d'éviter au maximum les choses qui sont négatives, nuisibles, blessantes. Ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, nous essayons de faire davantage de choses positives avec notre corps, notre parole et plus particulièrement encore avec notre esprit. Sur le plan émotionnel, sur le plan de nos sentiments, sur le plan de nos pensées. L'esprit, c'est le plus important parce que, quelque part, c'est lui qui nous constitue. Et puis, en troisième lieu, plus on a de sagesse et de compassion, plus toutes les choses négatives s'en trouveront purifiées. Et elles le seront d'autant plus facilement et complètement. Et maintenant, vous aviez parlé d'être malade, n'est-ce pas? Et bien sûr que nous tombons malades. Et si vous tombez malade ou s'il vous arrive quoi que ce soit de négatif, et si vous dites « Oh, je suis si malade, pourquoi est-ce que j'ai ça? C'est pas normal que j'ai ça ?» Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour en arriver là? Si vous avez ce genre de pensée, en fait, ça ne va pas vous aider à purifier. Mais si au plus profond de votre cœur, en fait, il y a une façon de gérer de la maladie ou toutes les autres choses négatives que vous arrivent, vous pouvez vous dire ces choses peuvent être le résultat de mon propre karma négatif du passé. Et donc, j'aimerais utiliser ces circonstances, cette maladie ou ces circonstances négatives, et je fais le souhait que non seulement mes actions négatives soient purifiées, mais que également les actions négatives de tout le monde puissent toutes les actions négatives de moi et d'autrui mûrir sur moi-même et puisse-t-elle se substituer à ce que les autres auraient dû endurer. Et donc si, en réaction aux situations négatives, vous faites cela, qui est un peu comme Tonglen, alors cela peut vous aider à purifier. Mais il ne faut pas penser que par le simple fait de souffrir, vous allez purifier, ou que parce que plus vous allez souffrir, plus vous allez purifier. C'est pas l'idée. Parce qu'en fait, il peut très bien se produire que vous souffriez beaucoup sans purifier, et même en accumulant encore du karma négatif. Parce que vous aurez des émotions négatives. Peut-être que ça purifiera un peu, mais pas tant que ça, finalement, selon comment vous allez réagir face à ces situations difficiles. Ok, je comprends maintenant, dit Corinne, merci. Et Green Poacher répond merci aussi. Donc, Kate, vous avez une question ? Bonjour, Green Poacher, merci beaucoup. C'est vraiment si fabuleux d'avoir ces sessions de questions-réponses. J'apprends beaucoup et j'apprécie beaucoup. Ma question est liée au texte du Bodhisharya Avatara. Il y a une mention du Seigneur de la mort. Et j'ai aussi lu ce terme dans une visualisation de Vajrasattva, où il est au-dessus de nous et il y a le nectar qui sort de sa bouche. Et je me demande si vous pourriez expliquer en quoi consiste ce Seigneur de la mort. Que veut dire ce mot Seigneur de la mort ? Et Rinpoche répond, donc ce terme Seigneur de la mort, il y a plusieurs explications ou plusieurs sens le concernant. En Inde, il y a une façon de penser traditionnelle selon laquelle il y a Yamaraja, qui est le seigneur de la mort. Et ce seigneur de la mort, il a un peu une tête de bison ou de buffle, ou des cornes de bison ou de buffle. Et quand quelqu'un est sur le point de mourir, il vient prendre, on va dire, votre âme ou votre conscience, il l'emporte. Et donc, il y a là une dimension légendaire à ce seigneur de la mort, à ce Yamaraja. Donc c'est plus ou moins juste une manière symbolique de parler de la mort elle-même. Et puis, toujours selon cette façon de penser, ce Yamaraja va pouvoir voir où vous êtes censé aller. Est-ce que vous êtes censé aller dans un royaume infernal, dans tel et tel endroit ? Et si vous devez aller au royaume des enfers, il vous y emportera, et le voyage vers cette destination probablement ne sera pas très agréable. Mais très souvent, quand on est dans le contexte bouddhiste, quand on parle de Seigneur de la mort, on veut vraiment parler d'impermanence. Comme vous savez, dans le dessin de la roue du devenir, la roue de la vie, est-ce que vous avez déjà vu ce dessin ? Oui. Donc, vous avez vu qu'il y a un grand être courroucé qui tient l'ensemble des six royaumes dans ses mains et aussi presque dans sa bouche. Et ça, ce que ça veut montrer, c'est que tout, c'est-à-dire l'ensemble des six royaumes et tous les habitants de ces six royaumes, est soumis au pouvoir du Seigneur de la mort, c'est-à-dire au pouvoir de l'impermanence. Et puis, il y a aussi des significations peut-être plus fortes, plus définitives. Donc c'est lié à l'impermanence, l'interdépendance, la vacuité, ce genre de choses. Et parfois, le Seigneur de la mort, c'est aussi Yamantaka, qui est la forme courroucée de Manjushri, qui lui-même représente la sagesse. la sagesse innée. Donc il y a plusieurs niveaux de compréhension. Et Kate Dia, c'est si intéressant, et maintenant j'ai des choses à explorer, merci beaucoup. J'apprécie beaucoup, c'est très utile. Et Rinpoche dit merci. Peter, maintenant. Bonjour Rinpoche. Est-ce que vous pouvez me voir? Oui, je peux vous voir très clairement, dit Rinpoche. Ça me fait très plaisir de vous voir, dit Peter. Et vous allez bien, demande Rinpoche. Oui, je vais très bien, dit Peter, tout va bien. J'ai perdu un ami très cher récemment, dit Peter. Mais à part ça, tout va bien et vous avez l'air d'aller bien. Et Rinpoche lui dit oui, ça va bien. Bien que maintenant, au Sikkim, nous avons quelques patients. Il y a eu le premier mort aujourd'hui. C'est si triste, dit Peter. Donc Peter dit, je poursuis mon chemin. Dans vos enseignements, et j'en suis à la confession. Et une chose que je voulais vous demander, c'est que j'ai lu un livre de Lama Yeshe il y a longtemps, par rapport au mantra de Vajrasattva, qui purifie les actes karmiques. Est-ce que nous avons besoin d'une transmission pour utiliser cela, ou est-ce que nous avons le droit de l'utiliser sans avoir reçu de transmission? Et Rinpoche dit, oui, vous pouvez faire cela. Bon, par ailleurs, il n'y a rien de mal à recevoir une transmission. Et Peter dit, est-ce que vous allez donner une transmission un jour? Et Rinpoche dit, oui, je peux le faire. C'est pas difficile de faire cela. Et aussi, dit Peter, merci beaucoup pour la pratique de la sadhana de la Tara Blanche. Je l'utilise. Et c'est vraiment plein de bénédictions. Et Rinpoche dit, d'accord, merci. Et Rinpoche reprend, en général, quand les gens font les nyandro, les pratiques préliminaires, ils n'ont besoin d'aucune initiation. Mais Vajrasattva, c'est un peu de l'ordre du Vajrayana. Et donc, la plupart du temps, ils reçoivent une initiation ou au moins une transmission du texte, c'est-à-dire un lung, mais en tout cas c'est pas un gros problème de faire cette transmission. Merci. Tania? Bonjour Rinpoche. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Comment allez-vous, demande Tania. Très bien, dit Rinpoche. Est-ce que vous pouvez m'entendre et me voir? Je peux vous voir et je peux vous entendre très clairement. Merci, dit Tania. Dans votre dernier renseignement sur comment faire face aux moments difficiles, qui sont toujours plus ou moins présents, vous aviez dit qu'il y a eu un moment où vous aviez lancé une compagnie de taxis. Non, pas vraiment une compagnie, mais il y avait juste un ou deux taxis. Un petit commerce. Oui, c'est ça. Oui, j'ai eu plusieurs commerces. L'un, c'était des taxis. L'autre, c'était l'imprimerie. Ça, c'était plus conséquent. C'était vraiment un commerce au sens plein du terme. Mais quand vous aviez votre petite entreprise de taxi, vous avez été très déterminé. Vous avez même réussi à enregistrer votre compagnie. Ce qui me fait rire, très, très honnêtement, c'est que, en fait, vous-même, vous ne conduisez pas. Et elle dit, oui, je comprends, vous aviez votre frère qui conduisait. Et Rinpoche dit, non, en fait, on avait embauché un chauffeur. J'en suis sûr, dit Tania, mais c'est venu de votre esprit alors que vous ne conduisiez pas. Et Rinpoche dit, non, en fait, on n'a pas besoin d'avoir soi-même le permis pour lancer une compagnie de taxi. Et Tania, elle dit, oui, je comprends, mais... La façon dont mon esprit à moi fonctionne, c'est que pour que quelque chose puisse arriver, il faut que plein de conditions soient remplies pour que ce résultat puisse arriver. Et ça m'a rappelé que un personnage qui apparaît dans deux livres écrits par des auteurs russes, et il y a un personnage en commun. Et ce personnage, dans ces livres, ce que fait ce personnage, c'est qu'il rend les choses impossibles possibles. Et ma question, c'est que conceptuellement, je peux un peu comprendre comment ce processus se produit, mais quand parfois on a l'impression qu'il y a un obstacle très très solide, comme par exemple, mais je peux pas conduire, donc je peux pas faire ça. Et donc, mais je suis très sérieuse, dit Tania. Il y a quelques années, je vous ai demandé un truc, un conseil, une astuce, parce que je me sentais à un point dans ma pratique où j'avais besoin d'un conseil, d'un truc sur comment vraiment et sérieusement ne pas être perturbé par les états d'esprit samsariques. C'est pas tellement pour en sortir, mais au moins d'être au clair quand ça arrive. Et maintenant, je vous demande, et vous me l'aviez donné, comme si vous l'aviez sorti de votre poche, vous me l'avez donné. Et maintenant, je vous demande s'il vous plaît un autre truc, une autre astuce, parce que je ne veux pas être bloqué sur mon chemin. Je voudrais savoir que il est possible de rendre l'impossible possible. Et vraiment, honnêtement. Je savais que vous alliez dire ça, mais quelle était votre question? S'il vous plaît, donnez-moi une astuce et s'il vous plaît, ne me renvoyez pas aux précieux ornements de la libération de Gampopa, parce que je l'étudie tant le texte que votre commentaire, mais là j'ai vraiment besoin d'un raccourci, parce que je suis fatigué de tout ça. Je suis fatigué des limitations que je m'impose à moi-même. Donc Rinpoche répond. La pratique du dharma, fondamentalement, elle consiste à découvrir quelles sont les causes véritables des problèmes dans la vie, des douleurs, des difficultés. Et si vous regardez les choses très 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 profondément, vous verrez que l'origine de tout ça, c'est la saisie du soi. Et donc, si vous pouvez un peu diminuer, amoindrir cela, cette idée que je veux ceci, je ne veux pas de cela, je suis. Si vous pouvez un peu défaire cela, relâcher cela, meilleur vous deviendrez dans la pratique. D'accord, merci. Mais comment est-ce que je fais pour relâcher, pour desserrer cet étau, cette étreinte? C'est ça la question. Je ferai tout ce que vous me direz. Je suis vraiment fatigué de cela. En comprenant Et Rinpoche dit, c'est pourquoi on a besoin de parler de l'anatman, du non-soi de l'individu. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre solution. Parce que tant que vous avez ça, et ben vous serez collé, vous serez coincé. Donc, tout ce qui peut vous permettre de desserrer un peu ça ou de d'ébranler un peu ça ou d'élargir un peu votre vision à ce niveau-là, comme un peu de compassion, ça peut aider. Ou vous pouvez rendre votre esprit un peu plus flexible, ça peut aider également. Cette idée que les choses devraient être comme ceci, les choses devraient se produire comme ceci, mon travail devrait être comme ça, ma vie devrait être comme ça, ma pratique doit être comme ça. Toutes ces choses qui, quand vous y attachez trop, vous bloquent. Et en fait, ça n'a pas d'importance comment les choses sont. Laissez-les être ce qu'elles doivent être, ça n'a pas d'importance. Et alors, ça va se desserrer. Et alors, vous aurez une différente perspective. Et puis, si vous comprenez un peu l'impermanence, un peu en profondeur, ça vous aidera aussi, parce que vous arrêterez de penser « les choses doivent être ainsi, je dois ressentir ceci, cela ». En fait, chaque chose peut complètement changer d'instant en instant. Donc, vous êtes peut-être inquiète à propos d'une toute petite chose, alors que vous pourriez perdre tout, vous pourriez mourir ce soir. Donc, pourquoi s'inquiéter d'une toute petite chose? Donc, c'est un peu comme ça. C'est ça, un peu, la chose. Donc, votre conscience, en fait, elle est extrêmement illimitée. Votre corps est fait de cellules, mais votre conscience n'est pas constituée de cellules. Votre conscience, elle est comme semblable à l'espace. Et ce que nous faisons, c'est que nous faisons un tout petit point et nous disons ce point, c'est moi. Et donc, vous rendez votre moi très petit, très étriqué, très limité. Donc, si vous pouvez faire en sorte que ce soit tout l'espace qui soit votre qui soit vous-même, eh ben, vous aurez moins de problèmes. Tout est possible, pourquoi pas? Oui, quand c'est vous qui le faites. Et Rinpoche dit... Non, Rinpoche dit non, il ne s'agit pas de savoir si c'est moi ou si c'est pas moi. Et donc Tania dit merci beaucoup, et Rinpoche dit merci aussi. Donc c'est Catherine maintenant? Et Rinpoche dit, il faut que vous ouvriez votre toujours, vous devez toujours ouvrir le micro. Voilà. Alors, Catherine dit, je suis très émue de vous voir et de vous entendre. Merci d'être présent pour nous. Merci, dit Rinpoche. Heureux de vous voir. Comment allez-vous? Je vais très très bien. Je suis très heureuse. Je suis très heureuse de suivre le Dharma, mais en même temps, ma question est bien là. Je pense que vous y avez un peu répondu en partie avant, sur le fait d'être trop centré sur moi-même, mais ma question, c'est que je ressens très fortement que le Dharma est le bon chemin pour me permettre de comprendre la réalité, pour me permettre d'être un meilleur être humain et pour tirer le meilleur de ma vie et pour être utile aux êtres. Et donc, je suis plutôt disciplinée. Je suis plutôt endurante. Mais là où je me perds, c'est que je suis vos recommandations. J'étudie très sérieusement le Bodhicharya. J'essaie de faire de mon mieux. Je prie aussi beaucoup, mais parfois je me perds. J'ai une sorte de crainte de ne pas consacrer mon temps aux bonnes choses. Parce qu'on nous dit que pour être capable de maintenir cette conscience, on doit d'abord purifier. Donc je me dis d'accord, je dois d'abord purifier. Mais ensuite, je me perds. En fait, j'ai un peu peur de passer trop de temps à suivre des enseignements parce que j'aime ça. Est-ce que je comprends correctement? Est-ce que je fais la bonne chose? Donc, je fais beaucoup de choses. Mais parfois, je me dis... Je ressens que j'ai comme un besoin d'être plus guidée. Et je cherche à être comment je devrais être un peu plus douce avec moi-même. Et en même temps, j'ai peur de me perdre ou de perdre le temps qu'il me reste. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu là où des fois je ne sais pas ce qui serait le mieux pour moi à faire. Euh, Rinpoche dit, je pense qu'il n'y a rien qui serait le meilleur. Donc, vous devez juste faire ce que vous pouvez faire. Et puis, vous continuez à le faire et vous savez quelle est la pratique principale du dharma. La pratique principale du dharma, c'est de travailler sur vos émotions négatives, vos kleshas. Donc, c'est ça. Et donc, quand vous avez des émotions négatives, faites quelque chose à leur propos ou laissez-les s'en aller. Ne vous y agrippez pas, ne vous y accrochez pas, que ce soit de la colère, de la haine, le sentiment d'être blessé. Et il ne s'agit pas de dire que qu'il est interdit d'avoir des émotions négatives. Bien sûr que vous pouvez en avoir, vous en aurez, c'est comme ça. Donc il ne faut pas se dire « Oh là là, je ne devrais pas avoir d'émotions négatives ». Non, il ne s'agit pas de ça. Parfois, la bonne manière de gérer les émotions négatives, c'est simplement de les autoriser à être là et de ne pas avoir trop d'aversion vis-à-vis de ces émotions négatives. Et puis, être un peu plus bienveillante avec vous-même, avec tous les autres. Et puis, quelles que soient les choses qui vous aident, si par exemple, si vous recevez un enseignement et que ça vous aide un peu, que ça vous inspire, et ben c'est très bien, vous pouvez faire ça. Il n'y a pas l'idée que... il ne faut pas penser aussi que si vous faites une chose, tout va s'arranger d'un seul coup, parce qu'on a beaucoup d'addictions. Et donc, des fois, ça va un peu mieux, des fois, ça va un peu moins bien. Mais c'est normal que les choses ne se fassent pas d'un coup. Et donc, si vous êtes un peu anxieuse ou si vous sentez tous ces doutes, au lieu de se dire « Oh, il faut que je me débarrasse de cette confusion, de ces doutes », non, vous vous détendez. Vous vous détendez, vous inspirez, vous expirez, vous ne faites rien. Et peut-être que ce sera ça la meilleure manière de vous séparer de votre confusion et de vos doutes. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui s'appelle confusion ou doute, c'est juste un autre klesha. Les choses viennent encore et encore, et donc toutes les pensées, toutes les émotions... Tout ce qui vient, c'est de cette nature. C'est comme des nuages dans le ciel ou les vagues dans l'océan. Vous laissez venir et vous laissez repartir. Et alors, ça ne vous causera pas de mal. C'est très intéressant, dit Catherine, parce que je fais cela en général, mais je n'avais pas eu l'idée que mes doutes, c'était de la même nature. C'est bête, n'est-ce pas ? Je ne m'étais pas rendu compte que mes doutes et mes craintes de ne pas faire la même chose, je pouvais utiliser les mêmes antidotes, c'est rigolo. Je pense que ça se situait à un autre niveau, et maintenant, je réalise que c'est la même chose, dit Rinpoche, et c'est la même chose, dit Catherine, et moi je pensais que c'était plus important. Et c'est si incroyable, merci tellement, je n'avais pas réalisé quelle était la nature de ces peurs. C'est très amusant. Vous m'avez vraiment donné la lumière, dit Catherine. Merci beaucoup, dit Catherine. Merci beaucoup, Rinpoche. Et je vous souhaite une longue vie. Nous avons besoin de vous. Nous avons tant besoin de vous. Et Rinpoche dit merci. Bonjour, Anna. Bonjour, Rinpoche. Je voudrais vous poser une question sur ma pratique quotidienne. Comme je vous l'avais dit, j'avais commencé un cours de ma mudra, et c'était en Écosse. Mais comme je n'ai pas fini les préliminaires, j'ai pensé que je devrais passer le temps jusqu'au prochain cours à pratiquer les préliminaires, les nondros. Mais peut-être vraiment du début. Est-ce que c'est une bonne idée ? Oui, de toute façon, nous en sommes tous au début, donc ça n'a pas tellement d'importance par où vous commencez. L'important, c'est que vous commenciez à pratiquer. Et la pratique, c'est le travail sur vous-même. Donc ça n'a pas tellement d'importance par où exactement vous commencez. Vous pouvez commencer avec le guru yoga, vous pouvez commencer par le refuge, vous pouvez commencer par peu importe en fait. En fait, toutes ces histoires d'ordre, ça n'est rien qu'une méthode. Mais moi, je pratiquais là où le cours s'était arrêté il y a plusieurs années, mais j'ai pensé que peut-être il valait mieux commencer depuis le tout début, n'est-ce pas? C'est pas ça? Vous pouvez faire ça, dit Rinpoche. Mais je voudrais savoir ce qui est le mieux, dit Anna. Mais Rinpoche dit, mais vous savez, c'est exactement ce que j'ai dit. Il n'y a pas une chose qui serait le mieux. Ça n'existe pas une telle chose. Rien, il n'y a pas ça. Quoi que vous fassiez, ce sera bien. Donc, vous pouvez faire ce que vous percevez comme étant le plus souhaitable et le mieux pour vous-même. Parce que quoi que vous fassiez, ce sera OK. Il n'y a rien dont on puisse dire si vous faites comme ci, ce sera bien, si vous faites comme cela, ce sera mal. Ça n'existe pas, ça. Et ça, c'est une autre chose, c'est que Akong Rinpoche m'a dit de ne pas pratiquer le mandala et le guru yoga tant que je n'avais pas fini les prosternations et Dorje Sampa. Donc je dois sauter par-dessus le mandala et le guru yoga, parce que le cours a continué et j'ai continué le cours. Et je me sentais pas très à l'aise avec ça, parce que j'avais l'impression d'avoir raté une partie de la pratique. Et c'est pourquoi j'avais l'impression de commencer depuis le début, de commencer les faire les prosternations, Vajrasattva, le mandala et le guru yoga. Vous pouvez faire ça, dit Rinpoche. Vous savez, c'est ainsi, dit Rinpoche. Dans le système tibétain, quand vous faites la retraite de 3 ans, quand vous faites la pratique des nyandro à plein temps, alors ce qu'on fait d'habitude, c'est que on enseigne d'abord la première chose, comme par exemple les prosternations et le refuge, et vous faites ça, et ensuite quand vous avez fini ça, alors vous faites Vajrasattva, et puis quand vous avez fini ça, vous faites l'offrande du mandala, et quand vous avez fini ça, et ainsi de suite. Donc ça, c'était comment on faisait les pratiques au Tibet et quand les gens faisaient les pratiques à plein temps. Mais faudrait pas penser que si par exemple vous faisiez Vajrasattva avant d'avoir fini le refuge, quelque chose de terrible se produirait. Pas du tout. À aucun moment il y a ça. Mais si votre enseignant vous dit de faire d'une certaine façon, vous pouvez faire de cette façon. En fait, ça n'a pas d'importance. Je vais passer cette année à essayer de pratiquer les nandro. Et oui, pourquoi pas, dit Rinpoche. Parce que maintenant, j'ai le temps et on verra ce qui va se passer. La pratique des préliminaires, c'est une très bonne pratique, dit Rinpoche, mais encore une fois, vous devez comprendre ce que vous êtes en train de pratiquer, parce que en fait, la pratique c'est vous-même, c'est pas les nundro, d'accord? Donc, si vous pratiquez, si vous travaillez sur vous-même, alors quoi que vous fassiez, ce sera très bien. Si vous le faites parce que c'est quelque chose de traditionnel et vous vous contentez de suivre un système et que vous ne vous concentrez que sur les nombres. Alors oui, c'est peut-être bien, mais c'est pas supérieur. C'est pas une véritable pratique. C'est comme ça. Alors Anne a dit non, je pense pas au nombre, mais j'essaye de faire les choses correctement. Mais Rinpoche, correctement ne signifie pas réciter les mantras correctement, ne signifie pas faire quelque chose correctement. De toute façon, il n'y a rien qui serait incorrect. Tout ce dont il s'agit, c'est de travailler sur vous-même. Et elle dit merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Donc il n'y a plus personne en direct. Donc Rinpoche dit, je vais reprendre les questions écrites. Donc c'est Andrej, le prochain. Existe-t-il un texte dans la littérature bouddhiste secondaire, les shastras, les commentaires, qui énumère les différentes sortes de vertus? Un texte qui ressemblerait au texte de Patrul Rinpoche sur les maras. J'imagine un peu que sur le plan pratique, tout le bouddhisme est sur les vertus et que ça concerne toujours l'accumulation des mérites, mais peut-être que vous connaissez une autre réponse à ma question qui pourrait m'aider à imaginer les chants de Bouddha. Alors Rinpoche réfléchit. Comme vous le dites, dit Rinpoche, les enseignements du Bouddha, le Kangyur, il contient vraiment beaucoup de choses. Il y a 100 volumes, comme vous le savez, donc il contient toutes sortes de choses. Mais je ne comprends pas exactement ce que vous entendez par énumérer les différentes vertus. Il y a les 10 vertueux, donc c'est les 10 actes vertueux et les 10 actes non vertueux. Il y a l'octuple sentier, la pratique de l'octuple sentier. Il y a les 6 paramitas. Et si vous voulez rentrer dans les détails, il y a d'innombrables choses, il y a plein de sutras, beaucoup de choses. Il n'y a même pas besoin d'aller dans les commentaires. On peut voir aussi le Tripitaka. Et puis, évidemment, il y a beaucoup de commentaires. Et tout parle des vertus, évidemment. En ce qui concerne les chants de Bouddha, je ne sais pas ce que vous entendez par une autre réponse à ma question qui me permettrait d'imaginer les chants de Bouddha. Probablement, je ne comprends pas tout à fait la question, dit Rinpoche. Pour ce qui est des chants de Bouddha, parfois, quand quelqu'un devient un Bouddha, quand quelqu'un s'éveille, atteint l'éveil, cette personne crée un chant de Bouddha. Ça veut dire que cette personne crée toutes sortes de connexions avec des milliards d'êtres, de sorte que quand cette personne manifeste le Nirmanakaya, un Nirmanakaya suprême qu'il obtient en devenant un Bouddha, et qui fait que tout le monde peut voir qu'il est devenu un Bouddha, alors toutes ces personnes qu'il peut libérer, qui peut rendre libre du samsara, eh ben, il pourra les libérer du samsara à cause des causes et conditions qu'il a créées. En fait, ils seront capables de voir ce Bouddha. Donc c'est ça qu'on appelle parfois les chants de Bouddha. Et aussi, il y a le chant de Bouddha d'Amitabha, ou la terre pure d'Amitabha, qui s'appelle Dewachen. Et chaque Bouddha a une terre pure similaire. C'est aussi, ça aussi, on appelle ça les chants de Bouddha. Puis, il y a une autre question de Linda. L'autre jour, quelqu'un vous a posé une question sur la phase de développement et je n'ai pu comprendre qu'une partie de votre réponse. Je crois que vous avez dit que sans une compréhension complète de la vacuité et du Mahamudra, ça ne serait que de l'imagination. Pouvez-vous dire un peu plus à ce sujet ? Pouvez-vous en dire un peu plus à ce sujet ? Ce que j'essayais de dire, dit Rinpoche, c'est que la pratique du Vajrayana elle doit avoir comme base l'intégralité de la pratique du Shravakayana, la pratique du Bodhisattvayana. Tout ça, ça doit être présent dans la pratique du Vajrayana. Mais ce qui est spécifique au Vajrayana, c'est les phases de développement et d'achèvement. Et ces phases de développement et d'achèvement, elles sont conjointes. La phase de développement, c'est surtout porte surtout sur les méthodes, les moyens habiles, et la pratique de la complétion, la phase d'achèvement, elle, c'est la sagesse. La phase de développement, c'est surtout shamatha. La phase d'achèvement, c'est surtout vipassana, au sens de la méditation intuitive, donc l'approche non analytique de l'aktung. Donc, pour pratiquer correctement la phase de création, nous avons besoin de la phase d'achèvement, de comprendre la phase d'achèvement. Plus on arrive à avoir la phase d'achèvement, c'est-à-dire la compréhension de la vacuité, de la véritable nature de l'esprit, de la vraie nature des choses, du Mahamudra, du Dzogchen, toutes ces choses, ça, elles constituent la base sur laquelle repose la phase d'achèvement. Et c'est ça la phase d'achèvement. Donc, meilleure votre compréhension de la phase d'achèvement sera, meilleure sera votre phase de développement aussi. Puis, la question suivante de Jane Lawless, du Maine. Notre groupe du Dharma dans le Maine va étudier bientôt les 7 points de l'entraînement de l'esprit. Nous avons étudié le texte un grand nombre de fois et la question suivante est apparue. Quel est le bénéfice d'avoir les slogans sur la bodhicitta absolue au début du texte, contrairement à ce qui se passe dans le Bodhicharya Avatara où la sagesse est expliquée à la fin du texte dans le chapitre 9. Alors Rinpoche dit Rinpoche explique que les enseignants ont donné différentes explications de ce point. Il y a une explication qui dit que dans la pratique du Lojong, en fait, la pratique du Lojong, elle porte principalement sur la compassion. L'échange de soi-même avec autrui. Donc c'est prendre et recevoir, c'est vraiment focaliser sur la compassion dans Lojong. Ça c'est la partie principale du texte, mais afin de pouvoir pratiquer cela correctement, il y a un élément qui est important, et qui est d'avoir un peu de compréhension de la vraie nature des phénomènes. Et c'est pourquoi on doit avoir un peu de la présentation de la bodhicitta ultime de façon abrégée au début, et puis ensuite de façon détaillée la bodhicitta relative. En gros, dans cette explication, il faut de la bodhicitta absolue, mais juste en tant qu'introduction, parce que la partie principale du texte, elle est sur la bodhicitta relative. Donc ça, c'est une des façons d'expliquer ce point. Une autre explication qui est donnée, c'est que le point principal est la bodhicitta absolue, la bodhicitta ultime, et donc on le met au début, bien que sous forme concise, on le met au début, mais ensuite, pour y parvenir, eh bien, on a toutes les autres méthodes qu'on a besoin de pratiquer pour arriver à ce but. Donc ça, c'est les différentes explications qu'il y a pour justifier cet ordre. Dans le Bodhicharya Avatara, en fait, l'enseignement porte sur les six paramitas. Et quand on parle des six paramitas, chacune mène à la suivante. D'abord, il y a la générosité, qui conduit à la discipline, plutôt à la conduite éthique, qui elle-même conduit à la patience, qui elle-même conduit à la diligence, qui elle-même conduit à la méditation, qui elle-même conduit à la sagesse. Et donc, pour chaque paramita, c'est comme si si la paramita suivante était, elle allait une étape de plus que la précédente, une marche plus haut. Et c'est pourquoi l'ordre est tel qu'il est. Mais en pratique, on peut prendre les choses dans n'importe quel ordre. Et aussi, dans le Bodhicharya Avatara, il est dit que toutes les choses qui sont... au début du chapitre 9, il est dit que toutes les choses que nous avons présentées jusqu'à présent ont été enseignées dans le but d'expliquer et de comprendre la sagesse. Donc, toutes les cinq autres paramitas ont été enseignées et sont pratiquées afin d'atteindre la connaissance transcendante, la sixième paramita, la prajna paramita. Donc, ces paramitas, elles sont comme un chemin qui nous conduit vers cette sixième paramita de la connaissance transcendante. Je pense que ça répond à la question, sans doute. Et puis, quelle heure est-il ? Peut-être que je vais encore en faire une. Et puis, nous conclurons ici pour ce soir. Nous arrêterons là pour ce soir. Donc, la question est de Elsa de Prince. Donc, cette question, elle a été initialement posée en français, mais elle a été ensuite traduite en anglais. Ma question porte sur comment réagir lorsque nous rencontrons des âmes décédées et non bouddhistes qui, lorsque l'on prie pour elles ou lorsque l'on leur envoie de la lumière, refusent de suivre le chemin dans le bardo de la mort. Elles veulent rester en vie ou suivre leur propre croyance provenant d'une tradition catholique. Est-il bon de continuer à les aider ou est-ce qu'on devrait simplement les laisser s'en aller et arrêter de prier pour elles et envoyer de la lumière à ces âmes ? Rinpoche dit, vous savez, dans le bouddhisme, on ne se pose pas un seul instant la question de se demander est-ce que la personne veut qu'on l'aide, veut qu'on prie pour elle, est-ce que la personne est... Non, est-ce que la personne pour laquelle on prie est bouddhiste, chrétienne, on ne se pose pas cette question un instant. C'est pas de savoir si elle veut être aidée ou pas. On se demande pas la question de ses croyances. On se demande pas si c'est un animal, si c'est un être humain, si c'est un esprit affamé. Vraiment, pour quel être on prie, ça n'a aucune importance. On prie pour tous les êtres sensibles de l'espace. Ça, c'est notre tradition. Et en fait, vous devriez entendre ma mère quand elle prie. Et même des personnes très âgées et très illettrées, elle prie pour tous les êtres, pour tout le monde dans l'espace. Donc ça, c'est ce que nous faisons, nous. Donc, de notre côté, nous essayons d'avoir la plus grande des motivations, la meilleure des motivations, et beaucoup de compassion et de bonté, et nous faisons des prières. Ensuite, de savoir dans quelle mesure ça pourra être reçu, ça c'est une autre question, et je n'en sais rien. Mais à ce moment-là, Donc quand on est dans le bardo, je ne sais pas si les gens se posent trop de questions de nature sectaire, de se dire je suis chrétien, je suis catholique, je ne veux pas suivre d'autres personnes qui voudraient m'aider. Je ne suis pas sûr, dit Rinpoche, je ne sais pas. En tout cas, Rinpoche, moi, ça ne me dérangerait pas. Pour ma part, dit Rinpoche, j'aimerais beaucoup que tout le monde prie pour moi. Que ce soit des chrétiens qui disent des bonnes prières avec bonté et compassion et bon cœur et cœur pur, je pense que ça m'aidera. Donc, peu importe qui il s'agit, de qui il s'agit, peu importe en quoi il croit, peu importe le chemin qu'il suive, s'il prie pour moi, dit Rinpoche, avec une compassion authentique, une bonté authentique, je suis sûr à 100% que ce sera bon pour moi et que ça m'aidera. Et donc, quand je vais mourir, j'aimerais que tout le monde prie pour moi, même s'ils sont communistes, même s'ils ne suivent aucune religion. Donc, je ne pense pas que ça ait d'importance, je ne pense pas que ça compte que cette personne pour laquelle vous priez, je ne pense pas que le genre de Dieu qu'elle est compte beaucoup, le genre de Dieu dans lequel elle croit compte beaucoup. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Et donc, je vous souhaite à tous le meilleur. Bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit. Merci beaucoup.